marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Belphégor, souvenez-vous, mars 1965, au Louvre, personne, même au département d'égyptologie, ne pense à la construction d'une pyramide. À l'Élysée, Charles de Gaulle regarde chaque soir le journal de 20h, la seconde chaîne de télévision naît à peine, et voici que sur la première, alors toute puissante, on prétend à 20h30, il y a un fantôme au Louvre. Le général de Gaulle finira par en parler en conférence de presse. Chacune et chacun en auront déjà discuté le matin, au bureau, à l'atelier, après les épisodes 1, 2, 3, 4 de Belphégor, avec Madame Sylvie, avec François Chaumette, avec Yves Régnier déjà, avec René Darry et Christine Delaroche.
C'était une vraie création de la télévision française, réalisée par Claude Barma, et c'était surtout un feuilleton dont l'histoire était la vedette. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un héros et une héroïne qu'on suivait, il y avait une histoire avec un mystère. Et c'est ça qui a fait le succès considérable et populaire, parce que les gens voulaient savoir la fin. Ça a tenu vraiment la France entière en haleine.
Dirons pas la fin, nous remonterons plutôt aux origines en compagnie de Jacques Baudou. Bonjour.
Bonjour.
Jacques Baudou est un spécialiste du fantastique, du merveilleux, basé à Reims. Toujours basé à Reims.
Toujours.
Vous avez été longtemps directeur des affaires culturelles de cette ville. Alors vous aimez bien cette époque, vous aimez bien aussi l'époque où naît le roman populaire. Et vous aimez citer Pierre Prévert. Seule la télévision dans les années 1960 pouvait retrouver le puissant courant du feuilleton populaire.
Oui, parce qu'il a lui-même réalisé pour la télévision, quelques années après Belphégor, un feuilleton qui a eu un succès absolument comparable, qui est Les Compagnons de Bâle.
L'historien est un ogre, il peut s'emparer de tout ce qui est humain. Le roman policier est humain, la série télévisée est humain. L'historien peut être sériphile.
Oui, tout à fait. Il y en a de plus en plus.
Mais oui. Dites-moi, avant les séries télévisées, les romans policiers, Belphégor, si on va à la source, a pour origine un auteur qui est un homme du croisement, qui s'appelle Arthur Bernède.
Oui, Arthur Bernède, c'est un personnage assez extraordinaire parce qu'il est né à Redon en 1871. Il est venu faire des études au Conservatoire de Paris de chant lyrique. Il a commencé une carrière de chanteur lyrique et puis il a eu un accident vocal. Donc il s'est reconverti. Il a commencé par écrire des livrets d'opéra, d'opérette. Puis ensuite, il s'est mis à écrire des pièces de théâtre, notamment il a souvent collaboré avec Aristide Bruand, ils ont eu tous les deux un énorme succès. Ensuite il s'est mis au roman populaire, et surtout très tôt, dès 1906, il a commencé à travailler pour le cinéma. Ouais. Et en 1919, avec Gaston Leroux et René Navarre, qui était un acteur de cinéma, ils ont créé la Société des Ciné-Romans.
Donc quand Belphégor, première version, naît, 1926-27, c'est un ciné-roman. Ça fonctionne
oui,
comment?
Oui, c'est un ciné-roman. C'est-à-dire que Bernède était le directeur, a longtemps été le directeur littéraire de cette Société des Ciné-Romans. Et un critique, a dit que c'était le premier auteur multimédia, parce qu'en même temps qu'il écrivait le scénario pour les films, il écrivait aussi la novélisation, comme on dit maintenant, qui était publiée d'abord en feuilleton, et pour ce qui concerne Belphégor, dans Le Petit Parisien. Et puis ensuite, au moment où le feuilleton était diffusé dans la presse, on sortait le film.
Alors le lieu pour le film en 1927, comme pour la série télévisée de 1965, c'est le Louvre, dont parle ici au micro de Jacques Chancel, une grande conservatrice de l'époque, je parle de l'époque des années 60, Madeleine Our.
La nuit, le Louvre, c'est un lieu angoissant. J'ai dormi dans le Louvre et c'est très impressionnant. Enfin, j'ai essayé de me reposer la nuit dans le Louvre. Je sais qu'il y a certains gardiens qui ont eu peur de rester à certains endroits. Il y a eu des gardiens impressionnés.
Vous vous rappelez Belphégor, le feuilleton de Claude Barma?
Ah oui.
Ouais, c'était plausible comme histoire?
C'était plausible.
Ouais. C'est une histoire qui aurait pu arriver.
Presque.
Vous avez été caressé par des fantômes dans vos promenades au Louvre ?
Non, pas jusque-là. Mais je dois dire que c'est quand même... J'ai essayé de faire un film, et puis je n'ai pas réussi. Et je voulais essayer d'expliquer au réalisateur du film qu'il fallait montrer qu'il y avait à l'intérieur du Louvre une densité de l'air qui n'était pas la même que l'extérieur. Ils ont tous été découragés par cette difficulté.
Alors, le roman d'Arthur Bernet et puis ensuite le feuilleton se déroule, enfin l'intrigue principale du début se déroule dans une salle qui est la salle des dieux barbares qui en fait n'a jamais existé au Louvre.
Aujourd'hui, le président du Louvre calculerait peut-être l'intérêt financier de l'affaire et autoriserait sans doute le tournage. À l'époque, en 65, on a travaillé en extérieur. 65, 6 mars, premier épisode. Le gardien Gautret, c'est Paul Crochet, rencontre au conservateur Parusseau, c'est Paul Cambeau, de l'étrange nuit qu'il vient de passer.
Un fantôme de forme inconnue apparaît. Alors Gautret, qu'est-ce qui se passe ?
Je suis bien embêté.
Ce qui s'est passé cette nuit, c'est tout ce qu'on vous demande.
Hier au soir, je faisais ma ronde.
Il était 2 heures.
J'arrive dans les salles du bas, la lune donnait à fond. J'ai coupé ma lampe. Tout me semblait normal. Et soudain, je le vois.
Qui ?
Lui ! Le fantôme ! Il était là, je sais pas, à 2 mètres de la statue du dieu barbare.
Qu'avez-vous fait ?
J'ai tiré ! Tiré ! Mais oui ! Et c'est là que ça devient fantastique. À cette distance, il n'est pas possible que je n'ai pas mis au moins une balle dans la cible. Il n'a pas bougé.
Ça devient fantastique. En tout cas, c'est de plus en plus inquiétant parce que la nuit suivante, les gardiens ont beau redoubler de vigilance, leur chef est retrouvé mort. On fait appel à la police. Au temps de Bernet, c'était la police ou un détective ?
Ah ben, y a la police avec l'inspecteur Ménardier qui, dans le feuilleton, devient le commissaire Ménardier. Mais il y a aussi l'arrivée sur les lieux d'un détective et d'un journaliste.
Alors, exit le détective dans la version de 1965.
Oui, Sean
Coq, on est au temps de Maigret, il n'y a plus de Chancock.
Non, il n'y a plus de Chancock, qui est-elle le personnage préféré de Bernet.
Le commissaire Ménardier, dans la série télé de 65, c'est René Darry, et le conservateur, c'est toujours Paul Cambeau.
On vient de s'apercevoir que certaines statues ont été déplacées. Alors, vous voyez la conclusion.
Belphégor est ici.
Ah ben, en tout cas, personne ne peut s'expliquer comment il entre et comment il sort du Louvre.
Savez-vous qu'il y a des Belphégor chez les anciens ?
Non.
Le dieu de la malice et de la méchanceté. Mais on raconte même que dans la haute antiquité, c'est à lui qu'on confiait le soin d'exécuter certaines victimes. On les attachait la nuit au pied de la statue, et au petit matin, la victime avait disparu. Il ne restait plus rien, sinon un petit peu de poussière.
C'est une légende.
Peut-être.
Mais de toute façon, il est mort, non ?
Qui sait ? Vous savez, les dieux morts, c'est un petit peu comme les volcans éteints. Ils peuvent se réveiller après plusieurs siècles de silence.
Alors, Belphégor, c'est un dieu moabite. On ne me demandait pas...
Si, c'est l'est de la mer morte.
Qu'est-ce que c'est que la moabite ? Simplement, pour moi, c'est un terme qui doit ravir les amateurs de charades à tiroir.
Oui, mais c'est dans le livre des nombres, vous savez, dans la Bible aussi. Alors, c'est un dieu d'origine orientale. Qu'on retrouve dans la littérature, Nouvelle de Machiavel, dans les opéras, c'est un volcan éteint qui menace sans cesse de se réveiller. Parlez-nous plutôt de la distribution.
Alors la distribution était assez étonnante parce que c'est un mélange très habile. On a un vieux routier du cinéma, hein, René Darry, qui a joué, si ma mémoire est bonne, Nestor Burma, dans 120 rue de la Gare. On a c'est Madame Sylvie, à peu près à la même époque, va devenir une grande vedette avec le film de René Alliot.
La vieille dame indigne.
On a un grand comédien de théâtre, hein, de la comédie française, François Chaumette, qui, comme à son habitude à la télévision, joue un rôle plutôt de méchant. Et puis, il y a les amoureux, hein, dans les feuilletons, il faut un couple d'amoureux.
Alors l'homme, le garçon amoureux, c'est un étudiant qui s'est passionné pour la question.
Oui, qui est passionné d'ésotérisme, alors que dans le roman de Bernet, c'est un journaliste, un déplacement plus intéressant. Il est joué par Yves Régnier, hein, dont on sait que après il fera une carrière à la télévision. Il jouera dans de nombreuses séries et puis il deviendra lui-même metteur en scène d'une série pas très bonne, Commissaire Moulin, sur la fin, alors qu'au début c'était une série intéressante. Et puis il y a Christine Delaroche qui joue Colette, c'est-à-dire la fille du commissaire Ménardier.
Alors ils vont essayer de filer le parfait amour dans des circonstances extrêmement difficiles, parce que nous sommes maintenant à la fin du premier épisode. On contracte, hein, ça dure une heure et demie.
Qu'est-ce qui se passe ?
Je ne sais pas.
Colette ! Colette ! Qu'est-ce qui vous est arrivé ?
Oh, j'en sais rien.
Comment vous n'en savez rien ?
Ben non, j'ai dû perdre connaissance.
On vous a attaqué ?
Je sais pas. En tout cas, j'ai rien senti.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Jacques Baudoux, premier épisode. Au bout d'une heure et demie, Belphégor, mars 65. On reste en suspens.
Ah oui, on reste en suspens. Ça, c'est une technique classique du film à épisode du serial américain. Technique qui vient d'ailleurs du serial américain, ce qu'on appelle le cliffhanger. Hein, le cliffhanger, ce qui veut dire suspendu à la falaise. Et l'exemple typique de cliffhanger, c'est dans le premier serial de l'histoire du cinéma, les Mystères de New York en français, les Périls de Pauline, l'héroïne est garrottée sur des rails de chemin de fer. À la fin du premier épisode, on voit arriver au fond du plan le panache d'une locomotive à vapeur. Et puis, il y a d'un seul coup marqué à suivre. Et évidemment, le spectateur qui veut savoir ce que va devenir Pauline se précipite la semaine d'après pour voir l'épisode suivant. Bah, cette technique a été utilisée très brillamment dans le feuilleton de Claude Barma et Jacques Armand.
Vous appartenez au comité de rédaction de cette excellente revue qui s'appelle Le Rocambole, qui est consacrée aux romans populaires, notamment en français. Je suis désolé de vous dire que cette technique, on la retrouve aussi dans Les Mystères de Paris de Gene Sue au 19e siècle.
Oui, tout à fait. C'est une technique qui était utilisée par les feuilletonistes de la presse, mais peut-être de manière moins systématique et moins choc, parce que l'image, c'est toujours plus fort que le simple texte. Et puis bon, mais c'est effectivement, dans chaque feuilleton, il y avait le principe, dans le rez-de-chaussée, il y avait le principe d'un petit mystère, d'un événement dramatique qui entretiennent l'attention du lecteur et le précipite le lendemain vers le même journal.
On n'a pas encore suffisamment dit, Jacques Baudoux, que dès le premier épisode de Belphégor, mars 65, apparaissait, dans le rôle d'une femme séductrice et dangereuse, Juliette Gréco, qui n'était pas si souvent demandée à l'écran, qui tira de l'affaire une nouvelle image très profitable et une nouvelle chanson qu'il fut moins.
Quand je me promène dans la rue, les gens disent « T'as vu ? C'est Gréco, c'est Belphégor. T'as vu ? C'est Juliette, c'est Belphégor. » Puis quand je reviens de voyage, les douaniers me disent « Tiens, bonjour Belphégor. » C'est très gai.
Vous êtes contente ?
Oui, je suis très très contente parce que c'est la première fois vraiment que je suis un peu démystifiée.
Oui, cette chanson a été écrite, naturellement, pour vous, par Georges Walter, sur une musique de Philippe Gérard.
Ne vaudrait-il pas mieux dormir plutôt que de vouloir savoir qui est Belphégor? Est-ce un vampire, un voleur d'or? Et quand on pense le tenir, il s'évapore dans le décor, ou bien il frappe et donne la mort. Qui peut savoir ce qu'est une femme à qui l'on a volé son âme? Oui, tout arrive, et pire encore, et même qu'elle soit Belphégor.
C'est étrange parce que Juliette Gréco va profiter d'une nouvelle image plus populaire, mais elle fait appel pour cette chanson à Georges Walter, qui est un excellent journaliste un peu intellectuel, et à Frédéric de Tovarniki, qui est un des introducteurs de Heidegger en France.
Oui, mais qui était aussi celui qui a écrit pour Alain René le scénario de Harry Dixon d'après Jean Rey, donc quelqu'un qui connaît bien aussi la littérature populaire.
Donc littérature populaire, monde intellectuel, le bilan n'est pas nul du tout pour Juliette Gréco.
Non. Puis elle, à peu près à la même époque, elle va commencer à faire une carrière au cinéma. Elle va tourner dans plusieurs films hollywoodiens. Donc, ce qui est intéressant, c'est la distance entre la l'égérie de Saint-Germain-des-Prés et puis quelques années après, un personnage de fantôme et de double personnage en fait, puisqu'elle joue deux rôles dans Belphégor.
Une dame et sa sœur jumelle.
Et sa sœur jumelle,
oui. Assez vite, on ne dévoile pas la fin. Les Français se demandent si Julienne Gréco n'est pas celle qu'il faudrait soupçonner. Mais ils se disent que ça doit être beaucoup plus compliqué que ça. Et ça va sûrement être beaucoup plus compliqué que ça. Hein. Et puis, elle est trop antipathique à certains égards dans son rôle de séductrice qui veut prendre dans ses raies le niais Yves Régnier.
Pauvre petit, ne serait pas à l'aise avec moi, je suis pétrie de contradictions. C'est comme ces gâteaux, moitié vanille, moitié chocolat, n'aimez pas?
Mais si.
Vous êtes étudiant en quoi?
En physique.
Alors?
Bah alors quoi?
Je me suis fait dire qu'au niveau de la molécule, la contradiction n'existait pas. Ou existerait-elle au niveau des êtres humains?
C'est assez juste.
Mais la physique...
Quoi, mais la physique?
L'énergie contenue dans l'atome, mon je ne dis pas. C'est pas mal.
On l'a prouvé.
Oui. Mais l'énergie contenue dans les êtres humains, c'est encore mieux, non? Quand la libérera-t-on, celle-là? Je vois d'ici le champignon que certains feront en explosant. BOM! Je vois très bien le mien. Mauve avec des reflets dorés.
Trop malhonnête pour être la coupable, je pense. Hein. C'est beaucoup plus compliqué que ça n'apparaît à la fin du premier épisode. Donc c'est une affaire ésotérique.
À un moment, oui, puisque on se demande ce que vient faire Belphégor au Louvre. Et assez vite, dès le deuxième épisode, on va le savoir, il est sur la trace d'un trésor... grâce à des dons médiumniques, et ce trésor, c'est le trésor des Rose-Croix.
Des Rose-Croix, oui, c'est-à-dire que on est déjà dans l'avant Da Vinci Code, là.
Oui, société secrète, née au XVIIe ou XVIIIe, les Illuminés de Bavière, enfin, toute une espèce de mythologie. Là, c'est la télévision qui fait appel à l'ésotérisme, parce que dans le roman de Bernède, c'est simplement le trésor des Valois.
C'est-à-dire des rois de France.
Rois de France. Ouais.
Mais on est dans les années 1960, où l'ésotérisme se répand dans une partie de la population, souvent les classes moyennes supérieures, ouais. Les cadres, par La Vertu de Planète, par exemple. La
revue. Le Matin des Magiciens, et puis le succès du Matin des Magiciens entraînant la création de cette revue Planète. Puis, de manière parallèle, la création de la collection Les Énigmes de l'Univers chez Robert Laffont, et où c'est un mélange, un salmigondi avec une espèce d'apparence scientifique. On parle à la fois des ovnis, de télépathie, de pouvoir psy, enfin...
Le Matin des Magiciens, les auteurs Louis Powell, c'est quelqu'un que vous avez connu,
Jacques Bergier. Jacques Bergier, oui. C'est une drôle d'association entre un Jacques Bergier qui est une formation scientifique, qui est un grand connaisseur de la science-fiction, grand résistant, et Louis Powell, qui est l'auteur d'un roman qui s'appelle L'amour monstre, et tous les deux vont réunir leurs forces pour écrire un livre qui est truffé d'ailleurs de nouvelles de science-fiction, hein, et qui fait appel largement comment dire, au principe de l'ésotérisme. Le monde est gouverné par des sociétés secrètes. L'homme a des pouvoirs inconnus, etc. etc.
Vous parlez de l'association Powell-Zbirgi. L'association Jacques Armand, l'adaptateur, et Claude Barma, le réalisateur. Jacques Armand dit on a trop tiré vers l'ésotérisme. C'est la faute à Barma.
Oui, parce que Jacques Armand il travaillait avec Barma depuis longtemps. Il est notamment l'auteur d'une des premières pièces policières adaptées en dramatique à la télévision en 1951, tournée par Claude Barma, qui s'appelait...
Alors là, Monsieur vous consultez Black. Votre encyclopédie. J'ai oublié de dire que aux éditions INA, vous avez publié une encyclopédie du merveilleux, du fantastique à la télévision. Ouais.
En 51, ils font ensemble une des toutes premières dramatiques télé.
Alors
policières.
Que le trésor des Rose-Croix repose, existe-t-il, au département des dieux barbares du Louvre? Si vous allez au Louvre, vous chercherez en vain le département des dieux barbares. Ça ne simplifie pas les choses.
Enfin, je te tiens, Belphégor. Les mains en l'air. Je te préviens que je n'hésiterai pas à tirer. Une fois. Deux fois.
On entend les sirènes et puis on voit le vêtement de Belphégor qui devient une spirale, un tourbillon. Il n'y a pas de meurtre dans le champ d'ailleurs quand Madame Sylvie va disparaître, étranglée. C'est hors champ. On ne montre pas ça à la télévision en 1965.
Non.
On est au temps du noir et blanc. Expliquez-nous d'ailleurs le rôle du noir et blanc dans le feuilleton.
Là, au moment où est tourné Belphégor, on commence à travailler sur la couleur, puisque la deuxième chaîne est prévue pour devenir une chaîne couleur, alors que la une resterait une chaîne noir et blanc pendant quelque temps. Depuis le début de la télévision, hein, dans les années 50, dès que ça passe le cap d'expérimentation, dès les années 50, la télévision utilise des caméras vidéo assez lourdes et fabrique de l'image noir et blanc. C'est pourquoi la première forme télévisuelle, c'est des dramatiques télé, hein, qui sont intermédiaires entre le cinéma et le théâtre, parce qu'en fait, on répète pendant 3 semaines, et puis après, on filme, et c'est projeté en direct sur les écrans des téléspectateurs. Et puis petit à petit, la technique va se modifier. On va commencer à utiliser le film grâce à des caméras légères, et ainsi de suite. Mais pendant presque 20 ans, la télévision se fait en noir et blanc comme l'était le cinéma au début.
Je ne sais pas si le public fait tout à fait la différence entre la dramatique télé et la série télé. En tout cas, il est de plus en plus captivé par le deuxième, le troisième épisode. Et quand arrive la date du 27 mai 1965, même la radio annonce dans son journal, en fin de journal cependant, que l'événement de la soirée, ça va être la diffusion de la fin de Belphégor.
Ce soir, Nicole Brice, quatrième et dernier épisode de Belphégor. Vous allez nous dire aujourd'hui qui est Belphégor ?
Je ne vous dirai pas qui est Belphégor, je n'ai pas pu l'obtenir et pourtant j'ai essayé de savoir qui était Belphégor. Personne ne sait qui est Belphégor. Il nous faudra donc attendre ce soir pour l'apprendre. Mais nous avons rencontré, j'ai pu voir Lucien d'Alsace, qui a tourné le premier Belphégor. C'était un muet aux environs de 1925, les belles années.
Je n'ai pas vu, moi, malheureusement, le nouveau Belphégor.
Puisque vous étiez aux États-Unis.
J'étais aux États-Unis.
Enfin, vous rentrez pour le dernier épisode.
Je rentre pour le dernier épisode.
Alors vous ne me direz pas non plus comment ça se termine ?
Ah, certainement pas.
Un des mérites, c'est que ça a permis de ressusciter le film de 27, qui d'ailleurs a été projeté, restauré, en 99, beaucoup plus tard, au Louvre.
Tout à fait, oui. C'est un film d'Henri Desfontaines, un réalisateur un petit peu oublié aujourd'hui, mais qui a beaucoup travaillé avec Bernard. Il avait fait auparavant Pocardas, qui a également été adapté à la télévision quelques années plus tard par Hubert Cronfield. Donc, en fait, Bernard a été réadapté 2 fois à la télé. Malheureusement, son plus grand succès en ciné-roman n'a jamais été adapté, c'est le Judex de Feuillade, C'est Franju qui le fera au cinéma de manière formidable.
On peut lire nouvelle édition Fayard 2001 en deux volumes, le Belphégor de Bernad sur le papier et la postérité sur le petit écran du fantastique.
Il y a eu quelques feuilletons, parce que l'un des grands succès de Belphégor, c'était ce découpage en feuilletons qui va devenir une chose récurrente. Alors avec des durées différentes, des horaires de projection différents, il y a des feuilletons qui sont découpés de manière à être projetés tous les jours de la semaine, il y en a d'autres qui sont découpés pour être projetés une fois par semaine, mais il y en a relativement peu qui sont du même domaine. Il y a les Compagnons de Bal de Pierre Prévert qui date de 68. Il y a les Compagnons d'Éleusis de Claude Grimbert et Alain Page qui est plus tardif, qui sont tous les deux des feuilletons un petit peu ésotériques. Mais la télévision se méfiait beaucoup du fantastique et Les Compagnons de Bal a été diffusé au mois d'août, choquer le téléspectateur.
Et les directions ont fini par suspendre le tribunal de l'impossible de Michel Subiela, qui était, avec une grande qualité technique, parfois aussi inspiré par Le Matin des Magiciens. Vous me direz qu'on ne se méfie jamais assez.
Nous sommes désormais entrés dans l'histoire. Découvrez le secret le mieux gardé de l'histoire de l'humanité.
Voilà, ça c'était un clin d'œil de notre réalisateur Jacques Sigal, c'est un extrait de Da Vinci Code. Et vous pensez qu'aujourd'hui, on organiserait au Louvre une visite thématique, Belphégor? Comme je parfois sais. On en organise dans des établissements je culturels suis... autour de Da Vinci Code.
Je ne sais pas si ça donnerait quelque chose.
On va ajouter une publicité pour des gens qui n'ont pas les moyens de s'en payer. L'association des amis du roman populaire, le Rocambole.
Oui, qui publie une revue qui s'appelle le Rocambole. Le dernier numéro qui est sorti il y a quelques semaines fête un centenaire bien vivace. Fête Fantomas.
Et puis il y a eu un numéro en 2001 consacré à Belphégor. L'adresse est sur notre site qu'on peut consulter et où on peut déposer aussi ses commentaires. Clarisse Le Gardien, Frédéric Martin, Franck Olivard, Jacques Sigal et aujourd'hui Aveline Carmois et Kamal Salifou.
Merci Jean Lebrun. Demain, mercredi, dans la marche de l'histoire, ce sera une rediffusion du 1er juin 2011 sur les loisirs à Rome avec Jean-Noël Robert qui est historien et latiniste.